Bonjour à tous et bonjour Nathalie Bernard, bienvenue.
Bonjour, merci.
On vous accueille pour la sortie de votre premier roman ado qui s'appelle « 7 jours pour survivre » et qui a été édité au mois de juin aux éditions Thierry Magnier. Avant qu'on revienne un peu sur ce roman qui est haletant et glaçant, je voulais qu'on parle un petit peu de ce que vous avez fait aussi avant, notamment littérature jeunesse. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots ?
Oui, en fait, moi, je suis publiée depuis une vingtaine d'années. Donc j'ai commencé il y a 20 ans en fait par de la littérature fantastique, thriller historique chez les adultes. Donc le premier roman c'était une histoire de vampire assez terrifiante qui avait été publiée chez De Noël. Et puis j'ai écrit pendant 10 ans pour les adultes et puis j'ai eu une sorte de crise. Enfin voilà, j'en ai eu un petit peu marre d'aller puiser dans disons mon histoire un peu sombre en fait, puisqu'il y a toujours une implication autobiographique, on en utilise toujours aussi son histoire, l'histoire de sa famille, etc. J'ai eu une fatigue et ma fille avait 9 ans à ce moment-là et je me suis dit tiens, je vais écrire une histoire à ma fille. Donc au départ c'était juste une envie comme ça et j'ai écrit donc un premier roman jeunesse pour les 8-12 ans qui correspondait à l'âge de ma fille. Je crois que c'est ce qui arrive très souvent, c'est assez banal en fait. Et donc ce roman s'appelle « Silence ». Et c'est un roman qui se passe au Moyen-Âge, avec donc une héroïne qui porte un prénom un peu étrange, qui existait au Moyen-Âge et qui n'existe plus aujourd'hui, et qu'on donnait aux petites filles qui ne parlaient pas à la naissance. Voilà, donc après j'ai écrit beaucoup de livres pour les 8-12 ans, j'ai plusieurs séries qu'on a emmenées, d'ailleurs vous les verrez si vous voulez tout à l'heure. Et puis après j'ai essayé pour les 6-8 ans et puis un album aussi pour les 3-6 ans, mais ça c'est plus difficile, il faut vraiment que j'ai une idée, une fulgurance, parce que c'est plus difficile pour moi d'écrire pour les tout petits. Et puis là je sais pas si c'est parce que ma fille a grandi, mais voilà, j'écris un roman qu'elle a eu envie de lire, parce qu'elle avait plus trop envie de lire mes romans du coup comme elle a 18 ans maintenant. Et voilà, donc là, je grandis aussi peut-être, moi, en ce moment, et j'écris donc, j'ai écrit ce premier roman qui est à partir de 14 ans, et là, je viens d'en envoyer un autre à partir de 14 ans aussi, donc je suis bien dans cette tranche d'âge.
Et très bonne nouvelle, alors. Et donc, dans ce roman, on suit un petit peu la descente aux enfers, on va dire, de Nita, qui est une jeune fille qui est sur le point de... qui était sur le point de fêter ses 13 ans avec sa maman. Et donc, elle disparaît de manière assez brutale. Et aux yeux des enquêteurs, tout d'abord, ça va leur paraître assez logique. C'est-à-dire qu'elle a typiquement le profil d'une fugueuse. Elle a un look assez gothique. Elle a des lubies et des passions très particulières aussi. Un papa qui est en prison, et sauf que elle n'a pas fugué.
Non, elle n'a pas fugué, mais c'est vrai qu'elle a le profil. C'est une métisse déjà, donc pour elle c'est compliqué. Au début du roman, elle se teinte les cheveux en blond, ça c'est très important, parce qu'elle refuse en fait ses origines. Elle a du mal avec ses origines parce que déjà au Québec c'est compliqué d'être métisse. On le dit pas assez, on n'en parle pas trop, mais c'est compliqué. Et en plus, son papa est en prison. Il est en prison parce qu'il a tué quelqu'un lors d'une bagarre qui a mal tourné. Mais il fait, disons qu'il est, il a peut-être une peine plus lourde parce qu'il est autochtone aussi. Voilà. Donc, elle est dans une période de sa vie qui est compliquée puisque c'est l'adolescence. Hein, l'entrée 13 ans, c'est vraiment l'entrée dans l'adolescence. Donc elle, au départ, elle est vraiment en crise d'ado et en plus, donc elle est enlevée à sa vie, une vie bon, qu'elle aime pas trop en fait, hein, mais qu'elle va bien regretter finalement.
Et concernant ce qui est amusant aussi, c'est la composition du roman, puisque chaque chapitre, déjà, on suit... La vie de Nita sur 7 jours, bon ça on le sait dès le titre, mais après c'est découpé en chapitres où vous avez une leçon de survie à chaque fois. Moi je me demandais si avant même de on va dire de chapitrer le roman, enfin est-ce que c'était déjà établi dès le départ ou après c'est vous qui vous êtes dit tiens, pour chaque chapitre, j'ai envie de mettre une leçon de survie, vraiment.
Alors, dès le départ, j'ai voulu vraiment structurer le roman en 7 jours, donc en 7 leçons. C'est un peu des leçons de scout aussi. Hein. C'est, quand il fait mauvais temps, bah, tu sors pas. Enfin, voilà, c'est un peu le bon sens, finalement. Et en fait, bon, ces leçons ont évolué en fonction de ce que j'ai voulu mettre dans le roman, forcément. Je les ai un petit peu modifiées au fur et à mesure, mais c'était déjà dans la structure de départ.
D'accord. Et ce qui est très intéressant et assez rare, finalement, c'est que on a 2 points de vue, donc on suit Nita et à chaque fois c'est entrecoupé avec le point de vue des enquêteurs puisqu'il y a un couple d'enquêteurs qui ne sont pas en couple du tout dans la vie, mais on a le lieutenant Lavigne et Gauthier. Ce qui est fou parce qu'à chaque fois c'est quand même énoncé à la 3e personne, c'est qu'on ne lit pas le roman, on le vit avec elle et surtout on survit avec elle. Et c'est non, mais je veux dire, c'est pas si évident de vivre vraiment un roman. Est-ce que vous avez des trucs, des astuces? Est-ce que ça s'est fait comme ça? Est-ce que
non? Je crois que comme beaucoup de romanciers, quand j'écris, j'essaie vraiment de me mettre dans la tête du personnage. Et je crois que à la fois c'est une histoire d'enlèvement, donc c'est à la fois moi en tant que mère un moyen d'exorciser des peurs, parce qu'en fait on a, je pense qu'en tant que parent on a tous peur que ça puisse arriver à nos enfants, donc ça c'est une partie de et ensuite je crois qu'il y a aussi une partie de fantasme, mais sur le côté survie, c'est-à-dire qu'on est dans une société quand même qui est très aseptisée, où on est pas du tout autonome en fait, et on se dit si on arrête de nous donner tout ce qu'on a, l'électricité, la chaleur, la nourriture, et qu'on se retrouve dans un environnement hostile, comment on réagit? Et je crois qu'il y a une partie de moi qui aimerait vivre, je sais qu'il y a des, maintenant le survivalisme est à la mode, donc il y a des week-ends de survie d'ailleurs. Il y a un scénariste qui m'a aidée sur certaines parties du roman, et il a fait un week-end survie le week-end dernier, où en fait il est parti avec des gars en forêt en Dordogne, ils ont tué le lapin, ils l'ont éviscéré, ils ont appris à faire du feu avec un arc, etc. Enfin bon, voilà. Je crois qu'il y a aussi dans notre société un peu aseptisée, très où tout est quand même si on a des craintes aujourd'hui avec le terrorisme, avec tout ça, enfin on a des craintes en permanence, mais en tout cas il y a quand même ce désir de s'en sortir un petit peu tout seul et de se confronter en fait à la nature, quoi, en fait.
Et puis le côté très réaliste pour moi du roman, il est certainement dû à votre écriture qui est quand même assez cinématographique, hein, finalement c'est assez scénarisé, donc c'est pour ça qu'il y a un vrai rythme, c'est que à chaque fois on alterne entre les différents points de vue et puis ça s'enchaîne mine de rien assez rapidement. Et ce qui est assez plaisant pour une fois dans un thriller, un polar ado, c'est que on se retrouve du côté des enquêteurs et qu'il n'y a pas plein d'indices comme ça qui s'enchaînent comme par magie. Mis à part le sac de Nita qui est retrouvé dans le parc où elle a disparu, on peine avec eux, on a vraiment du mal à récolter des petites choses pour qu'eux puissent tracer la route de Nita. Et c'est en ça que c'est assez crédible, parce que dans la vraie vie, j'imagine que c'est pas si évident de retrouver...
Oui, c'était important de rester crédible déjà avec une héroïne de 13 ans qui a des bonnes idées et des mauvaises idées, forcément. Elle fait des choses complètement ratées aussi, parce que sinon, c'est pas crédible. C'est quand même une citadine, même si elle a des origines autochtones et que son père lui a appris à construire des cabanes quand elle était petite. Ça reste une citadine, donc il fallait aussi qu'elle se plante, qu'elle fasse des erreurs, qu'elle tâtonne, qu'elle s'en sorte pas à certains moments, etc. Et les enquêteurs, c'est pareil. Moi, ce qui m'intéresse vraiment dans les personnages, c'est leur psychologie, c'est-à-dire où ils en sont quand ça commence. J'ai besoin de m'attacher aux personnages, en fait, pour écrire leur histoire. Donc, je vais pas mettre des flics, disons, caricaturaux ou qui sont juste des sacs d'os, quoi. Je vais essayer vraiment de rentrer dans leur histoire. Et ce que je souhaite, c'est que chaque personnage, en fait, avance sur sa route et qu'à travers un drame ou autre, hein, là, en l'occurrence, c'est quand même un drame, que chacun avance, en fait, et que chacun progresse et que chacun soit en croissance. Et effectivement, c'est aussi la thématique adolescente, c'est-à-dire qu'elle, il va falloir qu'elle grandisse, elle n'aura pas le choix, là, pour le coup.
Et oui, ça change. Bon, à 13 ans, je pense que ce soit toutes les jeunes filles ou tous les jeunes garçons, on a soit son père, soit notre maman qui nous fait notre linge, qui nous fait notre lit, qui nous fait à manger. Là, elle va être confrontée vraiment non seulement à la nature qui est hostile, mais à un cas de figure qui est catastrophique. Donc je pense que oui, elle va grandir d'un coup. Et c'est ce qu'elle dit d'ailleurs.
Oui, c'est ça. Au début, moi, je me suis inspirée de ma fille. Hein. C'est vraiment la gamine qui est devant ses séries, qui prend son plateau, qui va regarder ses séries de son côté. Il faut insister pour qu'elle mange à table avec nous. Et du coup, elle est vraiment sur elle-même, en fait, sur ses problèmes, sur ses photos, sur Facebook, sur ses séries. Alors là, je parle beaucoup de Walking Dead. En fait, ça, c'est moi qui aime vraiment cette série Walking Dead. C'est pas ma fille. Mais je trouvais intéressant de parler d'une série survivaliste aussi, quoi. C'est-à-dire que Walking Dead, bon, c'est fantastique. Mais c'est quand même survivaliste aussi, en fait. C'est un petit peu le même principe, quoi.
Et en plus, il y a le parallèle avec les zombies, parce qu'elle va appeler son ravisseur, parce qu'il y a quand même une histoire de ravisseur. Hein. on reste assez vague là-dessus, mais elle va l'appeler le zombie. Et donc, elle est dans un moment d'effroi quand même, parce que... Il y a un moment où on ne sait pas s'il est mort, s'il n'est pas mort, donc... On l'imagine, elle, toute seule dans cette cabane perdue en pleine nature avec toute cette neige qui s'est accumulée au fin fond du Canada. Et elle ne sait pas s'il va toquer à la porte. C'est-à-dire qu'on est dans un cauchemar éveillé. En plus, quand on lutte pour sa survie, parce qu'elle a quelques allumettes, elle n'a pas grand-chose pour se nourrir, on est toujours dans un demi-sommeil, un espèce de coma... Très bizarre.
L'originalité du roman, je crois, c'est que effectivement, elle va réussir. Enfin, le ravisseur, en fait, est le premier danger, mais le deuxième danger, qui est encore plus présent, c'est la nature, en fait, la nature sauvage, parce que une gamine de 13 ans dans une cabane toute seule au milieu du froid, quand il fait moins 10, c'est compliqué, quoi.
Et d'ailleurs, en parlant de nature, parce qu'on aborde dans votre roman ce que la nature a de plus sauvage, et moi j'ai envie de parler de ce passage qui m'a profondément marqué, où Nita se retrouve face à un ours. Est-ce que vous voudriez bien nous le lire, ce passage ?
Oui, bien sûr, avec plaisir. Le cœur battant au point d'en être douloureux, la jeune fille amorçait un demi-tour, mais une branche morte craqua bruyamment sous ses pieds et instantanément, la fourrure épaisse et noire s'immobilisa. Puis, les petits yeux sombres se tournèrent dans sa direction et en un éclair, l'ours se hissa sur ses pattes arrière. Ainsi, il était immense. Elle le vit lever le museau pour humer l'air. À qui avait-il affaire ? Était-ce un prédateur comme lui ou une proie ? Était-ce comestible ? Le cerveau de Nita tournait à mille à l'heure. Une voix qu'elle avait entendue des années auparavant résonna dans sa tête. Avril, c'est l'époque où les ours sortent de l'hibernation. Nita pensa à sa joue blessée, à l'appel du sang. Elle savait qu'un ours affamé est capable de dévorer un homme. Certains grizzlies mangent même leurs petits, ne laissant qu'une carcasse blanche impeccablement nettoyée sur la neige. Ce n'était pas un grizzly, c'était un ours noir. Cependant, inutile de grimper dans un arbre, il grimpe plus vite que toi. Inutile de courir, il court plus vite que toi. Inutile de chercher à les impressionner, ils sont plus impressionnants que toi. Mais alors que faire ? La morte ? Alors ce passage, en fait, il se trouve que j'ai écrit une première version de cette histoire suite à la réparation de la cabane du jardin. En fait, j'avais envie de construire mon atelier d'écriture dans la cabane du jardin qui était bien amochée. Et donc j'ai passé un été avec mon mari à reconstruire la cabane. Et en fait, c'est pendant la construction de cette cabane que j'ai eu l'idée de cette histoire. C'est-à-dire, vraiment, je me suis dit, tiens, mais si cette cabane était dans le Grand Nord, si, en fait, j'étais une jeune fille qui est en train de consolider les murs parce qu'il fait froid, etc. Donc, j'ai écrit un premier jet suite à la construction de cette cabane. Et j'ai envoyé le premier jet à Thierry Magnier et à quelques autres éditeurs au bout d'un an. Et Thierry Magnier m'a appelé, en fait, Soazic Lebas, il m'a appelé pour me dire... Alors, c'est super jusqu'à la moitié, mais alors après, il y a un truc qui ne va pas. Donc, j'ai repris mon texte, parce que Thierry Magnier, c'était vraiment la maison d'édition que je voulais. Et je suis partie au Québec. J'ai eu la chance de pouvoir partir au Québec, donc j'ai pris pas mal d'informations là-bas. J'ai pu vivre le Québec, même si c'était l'été, sur place, donc ça, c'était génial. Et alors, cette scène de l'ours... elle m'a été inspirée par deux anecdotes là-bas. En fait, la première, c'est que quand je suis partie au Québec, j'ai lu dans les guides qu'il fallait faire très attention aux ours, que les ours, en fait, avaient de moins en moins peur des hommes et qu'il y avait de plus en plus d'agressions et que ça pouvait être très dangereux. Et donc, ils donnaient quelques conseils. Effectivement, ils disaient, bah, pas la peine de faire le mort parce que voilà, ils peuvent s'attaquer à vous, pas la peine de courir, ils courent très vite, etc. Enfin, il y avait toutes ces... tous ces conseils. Et donc, j'avais qu'une angoisse, c'était croiser un ours. Et bien, évidemment, deux jours après qu'on soit arrivé, on était parti en fait, avec mon mari se balader autour d'un lac où il n'y avait pas énormément de gens. L'hôtel, en fait, était dans la forêt. C'est un hôtel en bois dans la forêt qui était... C'était très chouette comme coin. C'est à Sakakomi. Et en fait, on remontait le chemin dans les bois pour remonter à l'hôtel. Et là, d'un seul coup, c'était à la tombée de la nuit, il était 18h30, d'un seul coup, je vois une ombre comme ça qui s'approche, je me dis, oh là là, mais qu'est-ce qu'il est gros ce chien. Je ne sais pas pourquoi je me suis dit ça, c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit. Je savais qu'il y avait d'autres touristes qui pouvaient descendre et tout ça, donc voilà, je me suis dit, il est gros ce chien. Et puis deux secondes après, non, ce n'est pas un chien, c'est un ours. Aïe. Alors là, j'ai fait, il y a un ours, il y a un ours, il y a un ours. Donc on recule. Alors, j'ai réussi à ne pas courir, à ne pas crier, parce que j'avais ça en tête. Et puis finalement, l'ours, bon, a passé son chemin. Je crois que c'était l'époque où il y avait beaucoup de bleuets, donc il ne devait pas avoir très faim, il s'en fichait un petit peu de nous. Mais bon, moi, j'ai quand même eu très peur, parce que j'avais vu toutes ces annonces voilà, sur les dangers de l'ours. Et un petit peu plus tard, on est allé dans un autre endroit que je vous conseille si vous allez au Québec, c'est le parc Mahican. En fait, c'est un parc à loups, qui est tenu par un gars, en fait, un passionné des loups. Et là, on avait la chance, c'était fin août, d'être les seuls touristes, en fait. Donc, on a eu une visite guidée de son parc, vraiment privé. Et on a pu rencontrer les loups pendant 2 heures, les toucher. Enfin, bon, c'est vraiment magique, hein, c'est vraiment un truc à faire. Et là, y avait les seules autres personnes qu'il y avait, c'était des spécialistes des loups. Donc il y avait un jeune étudiant en fait, qui revenait de Sibérie et il me raconte qu'il est allé en Sibérie donc, pour étudier les loups. Et il me dit, sauf que voilà, là-bas, j'ai croisé un grizzly. Mais en fait, il me dit, bon, le truc, c'est que quand on croise un ours, il faut toujours avoir un sac à dos, quelque chose à jeter par terre. Parce que l'ours, en fait, il va se dire, bon, alors si... j'agresse cette chose-là qui marche et qui a l'air d'avoir de l'énergie, ben ça va me coûter de l'énergie. L'ours, en fait, il pense en nourriture et en dépenses énergétiques. Voilà. Donc, il va se dire, bon, là, ça va être quand même compliqué, il va falloir que je me batte, donc je vais dépenser de l'énergie. Donc, s'il y a un sac à côté, il va plutôt aller vers le sac pour voir s'il y a de la nourriture dedans. En plus, si vous avez laissé une barre chocolatée ou quelque chose, ça peut l'attirer, donc c'est pas mal. Et donc il me dit, ben là je me trouve face à un grizzly, j'ai pas de sac, j'ai pas de blouson, j'ai rien, en fait je suis en t-shirt et short. Et ben le type a sorti son t-shirt et il a jeté son t-shirt par terre en priant tous les dieux, et ça a marché, c'est-à-dire que le grizzly s'est intéressé à son t-shirt et pas à lui, et ensuite donc il est parti à reculons, tout en regardant le grizzly tout doucement, et puis au bout d'un moment, évidemment, il s'est mis à courir. Et cette scène, parce qu'après, elle est très longue, la scène, hein, Nita, ça dure assez longtemps, là, vous avez vraiment eu un extrait très court, cette scène m'a été complètement inspirée par ce gars. Donc c'est vrai que c'était bien de pouvoir aller sur place et de dynamiser cette deuxième partie qui ne plaisait pas à Thierry Magnier avec ce genre d'anecdote, quoi. Voilà.
Et qu'est-ce qu'il vous a dit justement quand il a relu la deuxième
L'étudiant oui. ou Thierry Magnier?
Non, Thierry Magnier.
Thierry Magnier, là, quand ils ont lu cette version, en fait, ils m'ont appelé, ils n'avaient pas encore fini la lecture, ils m'ont dit non, mais vous le réservez, on n'a pas eu le temps de finir, il nous reste quelques pages, mais vous nous le réservez, donc je pense que voilà. Ça...
Donc oui, ça donne froid dans le dos, mais au moins vous saurez quoi faire si vous croisez un ours.
Vous avez toutes les techniques à l'intérieur.
Donc justement, oui, vous parlez, vous abordez bien sûr pas mal de thèmes, la part animale, la violence, il y a aussi des notions d'éducation, etc. Et vous parlez du sexisme, quand même, à travers les yeux de ce lieutenant Lavigne, qui est une femme, et on se rend compte que c'est encore assez compliqué pour un homme d'être dirigé... et de recevoir et encore, des ordres par une femme.
Et encore que Gauthier, ça va, il est plutôt,
oui.
Il est plutôt sympa. Non, oui, j'aborde le sexisme, mais j'aborde surtout le racisme, je trouve, par rapport au fait que le lieutenant Lavigne, donc, qui est une femme, qui a une histoire assez, assez compliquée aussi, et qui est très... dans la passion, enfin, qui est très dévorée par cette enquête, en fait... elle est confrontée au problème que au Québec et au Canada en général, il y a beaucoup d'autochtones, de femmes autochtones et de jeunes filles autochtones qui disparaissent, qui sont enlevées, et on arrive à un chiffre, alors je ne l'ai plus en tête, mais enfin c'est un truc incroyable. Et souvent, il n'y a pas de suite, c'est-à-dire il n'y a pas d'enquête approfondie. On classe les dossiers. Et donc là, il y a eu quand même une enquête nationale qui a été ouverte par Trudeau en 2014, d'ailleurs, je crois, ou en 2013 ou 2014, parce que les familles y recevaient énormément de courriers en disant « Mais attendez, c'est pas parce qu'on est autochtone que c'est normal, quoi ». Parce que les flics, surtout les flics de la campagne, en fait, comme, qui sont près des réserves, etc., pour eux, c'est « Ah ben oui, de toute façon, les autochtones, ils sont drogués, ils boivent, ils traînent, ils font rien de leur vie. » Donc c'est normal, en fait, qu'elles se mettent dans des situations où elles sont enlevées, violées et assassinées, bien sûr. Voilà. Donc on va pas faire quelque chose, alors que si c'est une blanche... Ben là, ça va passer dans toute la presse, ça va être... Et donc ça, c'est quelque chose dont je n'avais pas conscience au tout début. Moi, j'avais envie j'ai imaginé une jeune fille autochtone au tout début. Et en fait, c'est progressivement, en prenant des informations, que j'ai découvert tout ça. Et alors, je l'explique à la fin, il y a une note d'auteur à la fin. Ce qui m'a vraiment fait froid dans le dos, c'est quand je suis tombée sur un article, mais alors là, c'était vraiment dans les dernières corrections de mon roman, qui disait que, en fait, toute cette enquête avait été possible parce qu'il y avait eu un cas qui a vraiment choqué les gens. C'est le cas de Tina Fontaine, en fait, une jeune fille de 15 ans, une autochtone qui a été enlevée et tuée. Et en fait, on a retrouvé son corps découpé en morceaux dans un sac plastique qui flottait sur la rivière Rouge, donc au Québec. Et donc, c'est à partir de ce cas vraiment horrible, en fait, que l'enquête a commencé. Et moi, j'avais donné comme nom à mon héroïne Nita Rivière. Donc quand j'ai lu ça, c'est vrai que je me suis dit, alors bon, soit j'ai lu ce nom, soit j'ai lu son nom de famille à un moment donné, puis j'ai oublié. Mais par contre, Nita, je l'ai imaginé vraiment en août 2014 quand je retapais ma cabane. Donc ça, j'avais rien lu encore. Et en plus, Tina Fontaine est morte en août 2014, c'est-à-dire au moment où j'ai eu l'histoire qui m'est arrivée. Alors c'est vrai que ça m'a un peu perturbée et du coup, je me suis vraiment investie dans l'histoire des autochtones. Ça m'a vraiment prise, ça m'a passionnée en fait, et j'ai continué à faire des recherches sur leur histoire en fait.
C'est assez incroyable.
Oui, ça m'a perturbée. Après, bon, voilà, je saurais pas l'expliquer, mais même mon mari, qui est très cartésien, est troublé par ça, parce que lui, il a vu toute l'avancée, donc il sait à quel moment j'ai trouvé les noms, etc. Il connaît la chronologie, quoi. Donc, voilà. Bon,
Et on apprend aussi, justement, par le biais de votre roman, qu'il y a eu des pensionnats, vous dites, entre 1820
et... pensionnats autochtones. Alors, c'est 1870 à 1994.
Ouais, donc,
ce sont des pensionnats pour autochtones qui ont été mis en place, en fait, pour assimiler les Indiens, en fait, et les transformer en blancs, si possible. Donc, c'est des endroits assez terribles qui étaient tenus souvent par des religieux et où il y a eu beaucoup de sévices. Donc là aussi, il y a tout un travail de mémoire qui a commencé il y a quelques années. Et les autochtones, les survivants en fait, de ces pensionnats, commencent à s'exprimer sur ça. Donc il y a de plus en plus de témoignages qui sortent. Et ce sont malheureusement souvent les mêmes témoignages, c'est-à-dire qu'on allait les arracher à leur famille en disant c'est pour le bien de votre enfant, voilà, il faut l'éduquer, sinon s'il reste avec vous, il ne fera rien de sa vie. Donc de toute façon, c'était la gendarmerie nationale du Canada qui venait, donc il n'y avait pas le choix, hein, de toute façon. Et il les emmenait, donc il leur coupait les cheveux, il leur changeait leurs vêtements, il leur enlevait toutes leurs affaires, il les brûlait. Les affaires. Et ensuite, il leur enlevait leur nom et il leur donnait un numéro à la place de leur nom. Donc pendant des années, en fait, ils vivaient avec un numéro à la place de leur nom et ils n'avaient plus le droit de parler leur langue. Il fallait qu'ils apprennent le français et s'ils parlaient leur langue, ils étaient punis. Et les punitions, ça pouvait aller jusqu'au viol. Enfin, c'était vraiment, vraiment horrible. Et ça m'a tellement choquée, tellement traumatisée, qu'en fait, le roman que je viens d'envoyer, ça parle de ça. Ça se passe dans les pensionnats autochtones dans les années 50. Donc, je l'ai envoyé lundi dernier. C'est un thème assez dur. Je ne sais pas, on verra si Thierry Magnier le publie ou pas, j'espère. Mais voilà.
Oui, parce qu'au départ, il y avait ce côté où ils voulaient les convertir religieusement.
Oui, alors ils étaient déjà convertis, en fait. Ils avaient déjà souvent des prénoms chrétiens. C'est pour ça qu'on ne comprend pas trop de vouloir vraiment s'obstiner comme ça à leur enlever. Ils ont déjà un prénom christianisé, en fait, puisque souvent les Indiens vivaient à l'ancienne. Ils allaient chasser, ils vivaient en groupe, en transhumance, etc. Mais il y avait déjà l'école noire depuis longtemps. Et ils avaient accepté une partie de la religion, donc ils faisaient baptiser leurs enfants, ils leur donnaient des prénoms chrétiens, etc. Donc en fait, ils enlevaient ces prénoms chrétiens pour leur donner des numéros. Donc là, vraiment, c'est quand même... C'est vouloir... D'ailleurs, ils disaient vouloir tuer l'Indien dans l'enfant. C'est d'une violence extrême, quoi. Donc voilà. Et ça a quand même duré très longtemps. Jusqu'à récemment, donc, et c'est très peu connu, même des Québécois et des Canadiens. C'est-à-dire que c'est un sujet tabou, parce qu'ils ont honte, en fait, de leur propre histoire, quoi. Et ça commence juste à sortir maintenant.
Et quand on voit la violence, déjà, de l'expression, on n'ose même pas imaginer ce qui se passait.
Voilà. Alors après, c'est vrai que j'ai pris les témoignages des gens qui avaient souffert de ça. Il y a toujours, dans ce que j'ai lu, il y a quand même toujours quelques personnes qui en ont retiré du positif. Tout n'est pas... mais enfin, ils sont plus rares, quoi, disons.
Et autre chose, à la fin également, vous parlez, vous remerciez Stéphane Bourgoin qui a écrit une sorte de bible, pardonnez-moi l'expression, c'est pas le mot adéquat, mais en tout cas qui recense tous les serial killers. Stéphane Bourgoin, vous avez dû passer des soirées absolument délicieuses.
Oui, alors ça a été la partie difficile des recherches, parce qu'il faut toujours faire beaucoup de recherches pour être crédible, hein, quand on écrit un roman. Et c'est vrai que Stéphane Bourgoin, j'ai lu le journal d'une psychologue des serial killers, en fait, en Afrique du Sud, qui donne en fait toutes les caractéristiques. Il y a des caractéristiques récurrentes en fait au serial killer, donc elle donne toutes les caractéristiques, donc je me suis inspirée de ça. Et du coup, j'ai appris aussi pourquoi Stéphane Bourgoin s'était passionné depuis 30 ans au moins par les... Non, c'est depuis les années 70, donc oui, ça fait plus. Parce qu'en fait, lui, quand il était jeune, il vivait à Los Angeles, et un jour, il est rentré chez lui et il a retrouvé sa petite amie découpée en morceaux. Ah. En fait. Et D'accord. donc, il est rentré en France parce que, évidemment, il était dévasté. Et il a suivi, il a pu suivre en fait les avancées de l'enquête. Et 3-4 ans plus tard, la police californienne lui a dit « Bon, ben, ça y est, on a trouvé l'assassin. » Et en fait, il en a tué 13 autres de la même manière. Et sa manière à lui de s'en sortir, parce qu'on ne peut pas se remettre d'une chose pareille, ben, ça a été de se passionner. C'est un peu spécial, hein, mais bon, moi, je ne juge pas. De se passionner pour les serial killers. Donc, il a interviewé... plus de 50 serial killers, il est allé dans les prisons, il a écrit des essais, il a écrit des romans, il a fait des documentaires. Donc lui, c'est vraiment la référence, si ça vous intéresse, les serial killers, c'est Stéphane Bourgoin, quoi. Voilà.
Et justement, vous vous souvenez un petit peu de ces caractéristiques récurrentes ou
Souvent. Ça m'a aidé à construire la biographie du mien. Hein. C'est quand même des gamins qui ont été traumatisés quand ils étaient petits, qui ont souvent subi des viols, qui ont été vraiment rabaissés. Et en fait, ils passent du statut de victime au statut de bourreau, en fait, à un moment donné. C'est-à-dire que ils ont toujours été victimes, ils ont toujours pris sur eux, et à un moment donné, il y a un truc qui vrille. Alors souvent, c'est entre 20 et 30 ans que ça se déclenche, et ils ont envie de faire aux autres ce qu'on leur a fait. Après, bon, c'est malheureusement, ils disaient que ça ne se soigne pas. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire 30 ans de prison, toutes les thérapies, etc. Si on les ressort de prison, ils recommencent. Et pourtant, c'est des gens très intelligents. Quand on regarde les documentaires, c'est assez troublant parce que souvent, ce sont des gens très agréables. À un moment donné, il va voir, je ne sais plus comment, je crois qu'on l'appelait le boucher ou je ne sais plus. En prison, il va le voir et le gars arrive tout souriant. Oui, ça va, Stéphane et tout. Enfin, ah oui, d'accord. Enfin, c'est très, très étrange. Quoi.
Mais c'est ce qu'elle dit d'ailleurs, Nita, dans le roman.
Oui, parce qu'il a l'air sympa.
Il a une voix très douce aussi, il a l'air agréable et surtout il a une vie sociale et c'est ça qu'elle a du mal à imaginer.
Oui,
bah,
il travaille.
Ouais.
Ouais, voilà. Donc, il y en a plein qui sont insérés. Alors après, peut-être pas populaires non plus, mais c'est peut-être des gens un peu secrets, mais en tout cas qui sont insérés dans la vie active et voilà.
Bon, passons à quelque chose. plus fun. Moi, je voulais savoir comment ça se passait, parce que je sais que vous animez aussi des ateliers pour les enfants, pour les adolescents. J'imagine qu'ils sont à chaque fois différents, mais est-ce que vous pourriez nous raconter peut-être le déroulement d'un atelier ?
Ça dépend, en fait. C'est vrai que souvent, c'est à l'occasion de rencontres scolaires. On nous demande... Les rencontres scolaires, en fait, c'est soit un jeu de questions-réponses comme ça, mais plutôt avec les enfants ou les ados. Et puis, sinon, je peux organiser des ateliers d'écriture. Souvent, je leur explique comment débuter une histoire, quoi. C'est-à-dire comment on s'y prend, dans quel ordre ça se passe, quelles recherches il y a à faire avant de commencer à écrire, parce que c'est très long avant de commencer à écrire, en fait. Et puis après, c'est des ateliers plus ou moins longs. Donc on peut faire un truc en une heure vraiment de démarrage. Et puis après, là, j'ai fait l'année dernière toute l'année pour écrire un roman. Donc on avait 20 heures. On se voyait deux heures une dizaine de fois dans l'année. Donc là, ils ont pu avancer beaucoup plus, évidemment. Donc il y a plusieurs formats, en fait.
D'accord. Et vous, justement, est-ce que vous avez, en tant qu'auteur, des petits rituels d'écriture, ou en tout cas, est-ce qu'il y a un moment de la journée ou un moment de l'année où vous écrivez plus qu'à un autre?
Alors, en fait, j'écris... Enfin, j'ai du mal à faire des pauses, en fait. Là, en fait, j'ai envoyé mon roman lundi dernier. Je me suis forcée à rien faire cette semaine. Bon, c'était la rentrée, j'étais occupée, du coup, par plein de choses, donc ça, voilà. Mais lundi, je m'y remets, en fait, parce que c'est mon métier, donc c'est difficile. Et puis j'ai toujours des idées en tête, donc j'ai pris une semaine cet été pour partir à la montagne, mais sinon j'ai écrit tout l'été.
D'accord, donc il n'y a pas de
non.
saisonnalité.
Il n'y a pas de saisonnalité. Puis,
c'est une passion.
Oui, en fait, je me lève tôt. Je suis sur les horaires de ma fille depuis que je l'ai, donc les horaires un peu scolaires. Et quand je suis vraiment à fond dans la création, je peux aussi me lever la nuit pour prendre des notes, des choses comme ça. Donc voilà, c'est assez prenant.
Est-ce que vous avez, vous portez plusieurs casquettes aussi, vous êtes biographe? Enfin, vous avez écrit une biographie
J'en ai écrit plusieurs biographies.
Sur un peintre, dont une... c'est ça ?
Non, fait, j'ai écrit plusieurs biographies. Alors, celle qui est sortie, qui a été vraiment publiée nationalement, c'était Otage des Baloutches. Donc, c'est un gars qui avait été enlevé. C'est des témoignages, en fait, de vie. Donc, je rencontre les gens pendant quelques jours et ensuite, j'écris leur histoire. Mais ça, j'ai arrêté parce que je trouve que c'est quand même assez difficile. C'est un travail de psy aussi, en fait. Et j'ai trouvé ça très dur.
Puis bon, déstabilisant.
Puis je suis tombée aussi. J'étais tombée sur un ancien légionnaire de 85 ans qui était un peu fou. Il avait des armes partout. Je me suis dit, c'est un peu dangereux quand même. J'étais chez lui. C'était un peu spécial. Mais c'est intéressant. C'est intéressant, mais je ne le fais plus trop, ça.
Et vous chantez ?
Voilà, oui, depuis une dizaine d'années, moi, je me suis mis au chant. En fait, c'est vrai que le passage du silence de l'écriture à la voix, pour moi, ça a été très important dans mon évolution, parce que quand j'étais gamine, je gardais tout pour moi, en fait. Donc j'écrivais tout le temps dans des carnets, j'écrivais plein de trucs, mais je savais pas que j'allais en faire mon métier, hein. Mais j'arrivais pas à m'exprimer vraiment avec mes parents, ou puis en plus j'étais fille unique jusqu'à l'âge de 13 ans, donc j'ai l'impression d'avoir été fille unique, d'avoir été seule, quoi, du coup, même si mon frère je l'adore et que je m'en suis occupée, mais plus comme une deuxième maman, en fait. Et donc j'ai toujours écrit dans le silence. D'ailleurs, j'avais toujours cette phrase de Duras. Écrire, c'est pousser un cri silencieux, en fait. Et pour moi, ça a été ça longtemps. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, oui, mais on peut faire autrement. On n'est pas obligé de souffrir non plus quand on écrit. Voilà. Et c'est pour ça que la série Silence, c'est pas un hasard, hein, la série Silence, avec ce personnage justement qui a besoin de travailler sur ça, sur sa prise de parole et tout ça, ben ça a été le premier spectacle qu'on a monté avec des musiciens et l'illustratrice. Et donc Silence, ben, a pris sa voix, en fait. Et du coup, ben, j'essaie de mêler maintenant tout le temps la parole et l'écrit, parce qu'on passe beaucoup de temps dans notre grotte, et c'est bien aussi d'en sortir et de partager autrement toute cette créativité.
Et concernant la littérature adolescente, parce que là vous avez écrit un deuxième roman pour les ados, est-ce que, je me demandais, qu'est-ce qui change quand on écrit pour les plus petits, même si vous écriviez finalement des livres où les âges s'arrêtaient à peu près à 11 ans, voilà, c'est ça, il n'y a pas grand-chose de différent, mais est-ce que vraiment l'écriture change ? Est-ce que vous avez dû réapprendre des choses ? Est-ce que vous vous êtes dit, ça, je peux enfin le dire comme ça, vous voyez ?
Moi, ça a été très difficile de passer de la littérature adulte un peu dure à la littérature pour les 8-12 ans, parce que j'arrêtais pas de me dire, oh, est-ce que là ils vont avoir peur, est-ce que c'est trop, est-ce que c'est pas assez, etc. Enfin bon, donc c'était très très compliqué au début. Et quand j'ai vraiment compris comment ça fonctionnait, là j'ai eu envie de retrouver une certaine liberté, c'est-à-dire que là, alors il n'y a pas de complaisance, je déteste faire souffrir mes personnages. Même dans le dernier hiver, là, le livre sur les pensionnats, je ne vais jamais être dans la complaisance. C'est-à-dire que si je parle du viol, par exemple, vous n'allez pas voir le viol en direct. Je déteste ça, en fait. Et d'ailleurs, au cinéma, il y a un film qui est sorti il n'y a pas longtemps qui s'appelle Wild River. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu. Moi, je suis allée le voir parce que je me disais, mais est-ce que ce n'est pas un peu comme mon histoire ? Parce que c'est une autochtone aussi qui est assassinée au départ. Et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de complaisance, en fait, dans la souffrance. Enfin, j'ai trouvé que, on sait qu'on la voit mourir, ensuite on la voit se faire violer, ensuite on la voit se faire tabasser, etc. Moi, j'en ai pas besoin. Voilà, je préfère, en fait, m'attarder sur la psychologie des personnages et comment ils s'en sortent, et toujours vraiment qu'ils aient un axe de croissance. Et je pense d'ailleurs que quand on écrit pour les ados, c'est quand même la moindre des choses. C'est-à-dire d'écrire quelque chose, que même si c'est sombre, il faut que ça leur apporte quelque chose. Il faut que ça les aide à grandir. Il faut que ça... faut qu'il y ait une croissance, faut que ça aille vers la lumière et voilà. Donc j'espère que j'ai réussi à le faire avec celui-là en tout cas, mais j'ai l'impression que c'est vraiment la sortie de l'adolescence de l'héroïne, quoi.
Ah oui, complètement. Mais même dans ce détail à la fin où finalement elle ne se teindra plus les cheveux, ça veut dire qu'elle s'accepte elle-même aussi et qu'elle est enfin en paix avec qui elle est. J'avais une petite question parce qu'il y a une vraie tyrannie, on va dire, des séries pour les romans adolescents. Pourquoi cette volonté justement d'avoir fait ce qu'on appelle un one shot, un seul livre?
Ah oui.
Est-ce que
alors ça c'est alors déjà ça sera pas un one shot.
Ah.
Mais en fait ça se décide pas trop avant en fait. Hein. C'est vrai que bon on écrit l'histoire qu'on a en tête et puis bon on voit où elle nous mène. Mais par contre, il n'y aura pas un one-shot parce qu'en fait, j'ai appris que j'allais faire la résidence au Chalet Mauriac au mois de juin, donc la résidence Polar Jeunesse, au mois de juin prochain. Donc je leur ai proposé d'écrire la suite des aventures de Valérie Lavigne et Gauthier Saint-James. Donc il y aura une autre enquête avec un autre ou une autre ado. Ça ne sera pas Nita, évidemment, mais oui. Voilà. Il y aura une autre enquête des flics là, qui se passera au Québec.
Mais tant mieux, parce qu'ils sont très attachés, voilà. Ces deux-là. Et j'avais une toute dernière question. Je voulais connaître quelles étaient vos inspirations. Est-ce qu'il y a des auteurs phares chez vous? Est-ce que vous lisez de la littérature ado ou pas du tout? Est-ce qu'il y a eu un déclic en fait en littérature qui vous a poussé à écrire et qui vous inspire? Ah,
voilà, beaucoup de questions.
Alors le déclic, tout dans le désordre.
Le déclic, il est très très loin de ce que j'écris. C'était Voyage au bout de la nuit de Céline. À la fac, parce qu'en fait j'ai eu un prof de fac, j'étais en histoire de l'art, j'ai pris option littérature et j'ai eu un prof absolument génial qui m'a parlé de Voyage au bout de la nuit de Céline et de Proust aussi à la recherche du temps perdu d'une manière qui m'a vraiment marquée en fait et qui m'a donné vraiment envie d'écrire, voilà. Donc le premier texte que j'avais écrit, c'était un genre de pastiche de Voyage au bout de la nuit, mais que je garde vraiment au fond d'un tiroir, hein, je ne le montrerai jamais, je pense. Et donc ça a été le déclic, même si c'est loin de ce que j'écris, c'est un texte que j'ai trouvé magnifiquement écrit, très moderne, très poétique, vraiment puissant, et ça a été le déclic. Après, je lis des choses très très variées, donc je lis évidemment de la littérature ado, hein. Là je viens de finir The Sun is Also a Star, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont lu, je trouvais ça super. Et puis je lis aussi de la littérature adulte, là j'ai dans les derniers romans que j'ai lus, que j'ai trouvé vraiment scotchant, il y en a deux, il y a Dans la forêt.
J'étais sûre. J'étais sûre que vous alliez parler de celui-là.
Pourtant, j'ai mis deux. Je l'ai lu en deux fois parce que j'ai trouvé que le début était dur à lire parce que je trouve qu'au début, elle parle trop de la danse. Je ne sais pas si elle a vraiment été passionnée par la danse, mais il y a au moins 100 pages où elle décrit vraiment les spectacles de sa sœur en long, en large et en travers. Et ça me saoulait un peu. Mais après, par contre, c'est vraiment grandiose. C'est superbement écrit. Vraiment, je vous le conseille. C'est un superbe livre sur le survivalisme. Très, très réaliste, sans explication. On ne sait pas pourquoi le monde est sorti de la normalité, mais voilà, c'est très bien fait. Et l'autre livre qui m'a vraiment marqué dernièrement, c'est La nuit du chasseur. Donc il y a un film qui existe, ça c'est David Grubb. Il y a un film qui existe, qui a été tourné dans les années 50, donc je ne sais pas si les jeunes là l'ont vu, ça, je ne suis pas sûre. Moi je connaissais le film, mais par contre le livre c'est vraiment splendide. C'est un conte noir avec des héros enfants et le chasseur qui est tout le temps à leur poursuite en fait, qui est tout le temps derrière eux, mais avec pareil une écriture poétique, majestueuse. Vraiment pour moi c'est un chef-d'œuvre. Et c'est dommage parce que ce gars a été traduit que pour ce roman, parce que ce roman en fait a été adapté très vite au même moment où il est sorti, quasiment, enfin un ou deux ans après. Et il a écrit d'autres choses qui n'ont jamais été traduites, donc je ne sais pas si c'est pas bien ou s'il a été traduit que parce qu'il y a eu le film, enfin je ne sais pas. Mais en tout cas, j'aurais bien aimé en lire d'autres, je ne suis pas assez bilingue, dommage. Mais
voilà. Donc ça peut être une idée à soumettre aux éditeurs aussi, à voir.
Ouais, voilà. Mais sinon, j'essaie de lire aussi les bouquins de Thierry Magnier, parce que je trouve que leur collection est très belle et que c'est bien écrit. Donc voilà, j'ai lu deux bouquins d'horreur, parce qu'ils m'ont demandé d'écrire un bouquin d'horreur. Donc c'est ce que je vais commencer lundi, là. J'ai lu En attendant qu'Hélène vienne. Alors ça, je crois que c'est à partir de 12 ans. J'ai trouvé ça très bien. C'est une traduction, par contre. Ils font pas mal de traductions. Ça, c'est très, très bien. Et après, j'ai lu Sanglant hiver.
Oui.
Que j'ai trouvé un peu moins bien.
Je ne l'ai pas lu, mais il me tentait bien.
J'ai trouvé bien la première partie, et après j'ai trouvé que ça s'affadissait, en fait. Voilà. Mais bon. Mais par contre, ça fait très Walking Dead, c'est-à-dire qu'il y a vraiment la même
univers de survie. Il y a une vraie demande en plus pour les romans d'horreur
ados. Bah, ils veulent vraiment créer une collection.
Il y en a très peu. Et justement, ça peut être.
Bah, ça y est, j'ai mon histoire, donc on va voir.
Parfait.
On va voir.
Merci beaucoup.